Bien, c'est le temps de faire le tour du Canada francophone aussi, surtout. On rejoint donc Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Alors, la gestion des langues officielles par le Conseil du Trésor irrite des parlementaires.
Oui, il y a des députés, des sénateurs qui s'interrogent sur le sérieux du Conseil du Trésor en ce qui concerne la loi sur les langues officielles. Je vous rappelle, dans la refonte de 2023 de la loi, les responsabilités d'application ont été redistribuées entre le Conseil du Trésor et Patrimoine canadien. Mais c'est au Conseil du Trésor que revient la majeure partie du travail de supervision et de s'assurer que le gouvernement respecte la loi. C'était donc à eux de rédiger le règlement en précisant les mesures d'épanouissement pour la langue française au Canada, un règlement qui est en révision en ce moment dans les différents comités. Puis, dans ces comités parlementaires-là, les députés et les sénateurs ont exprimé leur grande déception face aux réponses des fonctionnaires du Conseil du Trésor qui étaient là la semaine dernière et la semaine précédente pour répondre aux questions des députés et des sénateurs. Ils relèvent quelques incongruités et un manque de précision. Néanmoins, il semble que les fonctionnaires ont pris en compte les remarques des députés et des sénateurs et vont, il semblait être d'accord pour retoucher certaines parties du règlement. Mais il y a aussi une déception des sénateurs et des députés face au leadership du ministre Shavkat Ali, qui est le président du Conseil du Trésor. Il a refusé de venir au comité pour discuter de ce règlement-là. Il était venu en décembre pour répondre aux questions sur un autre règlement, mais sa performance par rapport à la responsabilité du Conseil du Trésor aux langues officielles n'avait pas impressionné les membres des comités.
Et puis les étudiants du Nouveau-Brunswick sont inquiets, eux, à l'approche du budget.
Je vous ai mentionné il y a quelques semaines qu'au Nouveau-Brunswick, on s'inquiétait d'une rumeur selon laquelle le gouvernement pourrait cesser de payer les taxes foncières des universités pour équilibrer son propre budget. Cette fois-ci, la rumeur, l'information qui circule, c'est que le gouvernement envisagerait plutôt de couper 10% des subventions accordées aux universités. La Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton lève un drapeau rouge là-dessus, parce que 54% des revenus de l'université proviennent du gouvernement. Une réduction de 10 % là, dans ce cas-ci, ça représente environ 8 millions de dollars en moins pour l'université de Moncton. Le gouvernement de Susan Holt, elle, justifie l'idée par la nécessité d'investir davantage en éducation, étrangement, éducation pour les plus jeunes et dans la santé. Mais la Fédération des étudiants de l'université de Moncton dit que réduire l'accessibilité aux études, comme ça, parce que si on baisse la subvention à l'université, ils vont être obligés d'augmenter les frais de scolarité. Donc, ça entraînerait une diminution des infirmières et des enseignants qui sortent d'une université, qui sont identifiés comme des secteurs prioritaires par le gouvernement. Donc, à longue, la main-d'œuvre finirait par manquer dans ce domaine-là et d'autres. On va attendre jusqu'au 17 mars pour avoir la réponse. Ça, c'est la date à laquelle le gouvernement va déposer son budget.
Bon, on va parler du train à grande vitesse, hein, Alto. Ben voilà, il y a des agriculteurs et des propriétaires forestiers qui se mobilisent face à l'arrivée éventuelle de ce train.
Oui, c'est ceux de l'Est de l'Ontario qui se sentent déjà un peu ignorés par les consultations de la compagnie qui est responsable de la construction du TGV, là, qui est supposé aller de Québec à Toronto, mais la première étape, c'est de construire Montréal-Ottawa. Le 24 février, il y avait une manifestation à Mirabel et il y a des agriculteurs, des propriétaires terriens de l'Est de l'Ontario qui étaient là. Le journal Agricom a entre autres parlé à l'agriculteur Philippe Henrard, qui a des terres dans l'Est de l'Ontario, qui dit que les consultations ressemblent plus à des réunions de promotion du TGV qu'à des discussions sur les impacts que ça pourrait avoir sur eux. Il dit que ces terres sont déjà traversées par l'actuelle voie ferrée et que ça complique son travail. Il s'inquiète que si le TGV suit le même corridor, parce que c'est un des plans envisagés, il devrait faire des détours considérables pour accéder à ces terres, parce que je vous rappelle que un TGV, ça nécessite 40 à 60 mètres d'espace en raison de la sécurité, puis on peut pas permettre à des véhicules de traverser la voie, il faut construire des ponts ou des tunnels. Donc, pour un agriculteur, quand ça traverse votre terre, ça complique le travail, il faut que ça limite les voies d'accès. Il y a aussi l'association Boisé Est, qui partagent des préoccupations similaires et son président dit que le projet du train le tient super occupé. Fait que même si les consultations sont à leur début, On dit qu'on manque d'informations et de précisions sur le projet pour prendre les bonnes décisions du côté des agriculteurs. Pour l'association du boisé, les inquiétudes se résument à la complexification des gestions de la terre et des forêts, parce qu'ils sont divisés, ça peut être problématique. On peut avoir des effets néfastes sur la biodiversité. Il peut y avoir une perte de couvert forestier qui est déjà limitée dans cette partie-là de l'Ontario. Il y a une perte de revenus qui peut être anticipée aussi, et une diminution de la valeur des terres qui se rapproche du train. Et bien, apparemment, c'est déjà observable. Le prix des terres a déjà diminué dans ce coin-là. Donc, c'est des questions. Et aussi, il y a des questions qui se posent sur la rentabilité du projet, d'après eux. On peut s'attendre à davantage de contestations au fur et à mesure que les consultations vont progresser, depuis qu'on va avoir plus de détails.
Le Conseil scolaire Fransaskois change de stratégie en poursuivant le gouvernement.
C'est l'eau vive qui revient là-dessus. Je crois que je vous l'avais mentionné là, parce que cette poursuite-là a été déposée en novembre, mais l'eau vive a obtenu plus de détails, plus de réactions de d'autres intervenants. Dans sa poursuite, le Conseil scolaire souligne que le taux d'assimilation et d'exogamie en Saskatchewan est plus élevé au Canada. Là, on parle de 75% environ des francophones qui perdraient tranquillement leur langue. Il y a seulement 20% des 11 720 parents qui ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école française qui le font. C'est vraiment pas beaucoup. Il y a un parent à qui le journal a parlé, qui est aussi un détenteur d'un doctorat en histoire de l'éducation française en Saskatchewan, qui est surpris de la poursuite. Parce qu'il, bon, on sait que l'éducation est sous-financée, l'éducation en français est sous-financée dans cette province-là depuis longtemps, mais il pensait que la relation entre le gouvernement et le conseil scolaire était quand même amicale, parce qu'on n'avait pas eu d'écho autrement. Il se demande donc s'il y a un événement particulier qui a provoqué ce revirement de situation. Il y a aussi un collectif qui s'appelle le collectif des parents inquiets et préoccupés, qui ont un peu la même réaction, surtout que eux, ils avaient déposé une plainte similaire en août, donc quelques mois avant le conseil scolaire. Donc, ils déplorent un peu qu'ils n'aient pas été consultés, mais se disent justement que c'est probablement parce que le gouvernement a enlevé cette obligation de consultation-là des parents qui fait que, depuis ce temps-là, les conseils scolaires parlent moins aux francophones. Puis je vous rappelle que la francophonie en Saskatchewan est très dispersée. C'est beaucoup dans les petites communautés rurales. Donc, le conseil demande un mode de financement différent qui tient compte des particularités des communautés francophones et la construction d'une quinzaine d'écoles de proximité afin d'éviter aux élèves des déplacements très longs en autobus.
Les territoires du Nord-Ouest réclament plus qu'une prolongation du financement pour les enfants inuits d'abord.
Oui, c'est relevé dans l'Aquilon, les enfants inuits. D'abord, c'est un programme qui soutient des services de santé, des services sociaux et éducatifs pour les enfants inuits et des Premières Nations du Nord du Canada. J'en avais parlé un peu il y a quelques semaines parce que les territoires attendaient encore une confirmation du prolongement de ce financement-là qui devait finir à la fin mars, du moins l'entente initiale. L'annonce a finalement été faite le 19 février, mais la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des territoires du Nord-Ouest, Caitlin Cleveland, n'est pas entièrement satisfaite. Elle est contente que le financement reprenne, là, que ce soit confirmé au moins pour un an, mais c'est ça, c'est juste pour un an. C'est mieux que rien, mais ça crée quand même des incertitudes face à l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver encore dans un an? Ce qu'elle rappelle, c'est que ces programmes-là sont essentiels dans le nord du pays. Celui-là et le principe de Jordan, c'est pas considéré comme des bonus, c'est vraiment quelque chose qui comble des lacunes qui datent de longtemps dans l'offre des services qui soutiennent les élèves dans les petites collectivités isolées où les options sont limitées. Il va donc falloir éventuellement faire d'autres promesses de prolongement ou de pérennisation du côté du gouvernement fédéral. Puis la ministre des Territoires rappelle aussi que les territoires, c'est pas des provinces. La dynamique avec le fédéral est différente. Malheureusement, souvent des ententes qui sont pensées par le gouvernement fédéral sont pensées en fonction de l'interaction avec les provinces, puis ça s'applique pas nécessairement aux territoires. Donc, il faut parfois aborder les choses différemment.
Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.